l'atelier du pouvoir.
Il est très important que l'exercice du pouvoir politique se voit interrogé par des gens qui posent la question, mais qu'est-ce qui vous légitime ?
Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue.
Je rêve tout simplement d'un pays ambitieux.
La France.
Dont tous les habitants redécouvrent le sens du dialogue.
C'est pas la gauche.
Pourquoi pas de la fête ?
La France.
Et de la liberté.
C'est pas la droite. La France.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes.
If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all things are possible, tonight is your answer.
La politique, dans une démocratie, c'est l'honnêteté et le respect de l'autre. La fin ne saurait en aucun cas justifier les moyens.
L'atelier du pouvoir, Vincent Martini, Thomas Vider.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vincent Martini.
Bonjour Thomas Vider, bonjour à tous.
Bienvenue dans ce nouvel Atelier du Pouvoir, l'émission qui chaque samedi sur France Culture vous propose un autre regard sur la politique, à la découverte de ses lieux, de son histoire, mais aussi de ses rituels et de ses moments, en quelque sorte de la dramaturgie propre à notre vie politique. Alors justement, c'est de cela qu'il va être question aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le samedi 7 mai, voici donc pile 4 ans et 1 jour que François Hollande a été élu président de la République. Nous voici donc désormais dans la dernière ligne droite, dans la dernière année du quinquennat. Le compte à rebours a commencé et nous nous sommes dit que c'était l'occasion pour nous de nous interroger sur cette fameuse dernière année des mandats présidentiels. Y a-t-il des points communs entre les fins de mandat de nos présidents ? Le passé peut-il nous éclairer de ce point de vue sur l'année qui nous sépare de la prochaine échéance ? Voilà les questions que nous allons poser aujourd'hui, mon cher Vincent.
Année perdue ou mobilisation jusqu'au bout pour les Français, obsession de l'élection à venir, fin de règne ou lutte pour une réélection éventuelle, les fins de mandat présidentiel ne sont jamais neutres. Certes, les situations varient en fonction d'un premier ou d'un second mandat et du niveau de popularité du président alors que le mandat arrive progressivement à échéance. Quel que soit le cas de figure, il est frappant de constater que le discours ne change jamais. Le gouvernement est au travail et le président préside. En réalité, on sait que la machine de l'élection présidentielle est déjà en route. Pas une interview sans que l'on interroge les uns et les autres sur leurs ambitions à la magistrature suprême. Les collaborateurs commencent à quitter le navire et il faut les recaser. Enfin, les attaques de l'opposition se font plus violentes alors que le mandat arrive à son terme. Une conception idéale de la démocratie exigerait du personnel politique qu'il reste concentré sur sa tâche et non pas sur le futur. Mais la réalité du monde politique est autre. Les médias, le jeu de l'alternance démocratique, les citoyens eux-mêmes qui rêvent d'une alternative au pouvoir en place conspirent contre cet idéal. Parce que la politique constitue une lutte concurrentielle pour le pouvoir, comme le disait Max Weber, on ne peut lui demander de faire totalement l'impasse sur l'objectif de l'élection. Pour autant, la dernière année de mandat pose la question du temps en politique et de la durée des mandats présidentiels. Trop long ou trop court sont les analyses, le temps de gouverner peut-il se permettre de voir gaspiller un cinquième du mandat à préparer la suite ? Le dernier mandat, année gâchée ou année utile, que fait un gouvernement un an avant une élection ? Quels sont les points communs entre ces périodes dans l'histoire politique de notre pays ? Peut-on encore engager des chantiers importants alors que le temps s'accélère ? Voici quelques-unes des questions que nous posons à nos invités dans ce nouvel Atelier du Pouvoir consacré cette semaine, un an avant la fin du mandat de François Hollande, aux dernières années du mandat présidentiel.
Nos invités, d'abord Benoît Apparu, maire de Châlons-en-Champagne, député de la Marne, mais aussi, c'est pour cela que nous vous avons invité, ça vous ramène quelques années en arrière, ancien ministre du Logement de Nicolas Sarkozy. Je crois que c'était dans les trois dernières années de son mandat, de 2009 à 2012. Avec nous également en direct de Clermont-Ferrand, l'historien Mathias Bernard. Bonjour. Vous nous entendez ?
Bonjour.
Oui, bonjour. Vous êtes président de l'université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, l'un des meilleurs spécialistes de l'histoire politique de la Ve République, à laquelle vous avez consacré plusieurs ouvrages. Une spécialiste des études d'opinion nous fait elle aussi le plaisir d'être avec nous. Il s'agit de Karine Marsay, directrice associée de l'Institut TNS Sofres. Et puis enfin, pour notre séquence internationale, dans une vingtaine de minutes, nous irons aujourd'hui aux États-Unis avec Vincent Michelot, ancien directeur de Sciences Po Lyon et à qui l'on doit plusieurs livres sur l'histoire des présidents américains.
Je sais que 2012 sera un rendez-vous électoral de grande importance. Mais nous sommes en 2011. Nous ne pouvons nous payer le luxe d'une année d'immobilisme préélectoral alors que le monde avance à une vitesse stupéfiante. 2011 doit donc être une année utile pour les Français. La difficulté ne compte pas lorsque sont en jeu l'intérêt de la nation et le bien commun des Français. Mon devoir est de privilégier en toutes circonstances l'intérêt général. Jusqu'à la dernière minute de mon mandat, je n'aurai d'autres règles que celles-là. Nous allons donc continuer à réformer. Nous devons travailler sans relâche toute cette année au service d'une prospérité française retrouvée qui nous permettra de créer les emplois dont nous avons besoin.
Les vœux de Nicolas Sarkozy le 31 décembre 2010, il est resté à peu près un an et demi à l'Élysée. Alors là, j'ai envie de dire, Benoît Paru, on a un peu tous les clichés. Une année utile, bien que ce soit une année préélectorale, je réformerai jusqu'au bout, je serai au service des Français jusqu'à la dernière minute. Tout ça, ça paraît complètement galvaudé. Enfin, c'est de la communication ou pas, Benoît Paru ?
Difficile de vous répondre, mais effectivement, en tout cas, j'imagine que si on écoutait François Hollande aujourd'hui, on aurait à peu près les mêmes mots.
Il l'a dit, je réformerai jusqu'au bout.
Une intonation probablement différente, mais des mots similaires. Et que si on se replonge dans un passé plus lointain, l'ensemble des présidents de la République, en fin de mandat, nous ont dit que la dernière année ne devait pas être une année gâchée. Peut-être avoir un prisme un peu différent que celui qui est le cadre principal de votre émission. J'ai le sentiment que les choses sont presque un poil plus graves que ce que vous évoquez. Et que, dès le lendemain de l'accession à l'Élysée, le président en exercice pense déjà au renouvellement de son mandat. Donc on n'est pas tant, me semble-t-il, dans la dernière année où on se consacre à l'élection. Je crains que ce soit pendant les 5 années que l'on se consacre, si ce n'est principalement, en tout cas pour partie, à l'élection. Premier élément. Deuxième élément, si vous le voulez bien, ensuite on va avoir des styles différents. Et des stratégies, surtout électorales, différentes. On peut très bien avoir la stratégie électorale de la dernière année de mandat, où le président va effectivement faire feu de tout bois, pour prouver ses allégations, mais là encore avec une stratégie électorale derrière la tête. C'est-à-dire, je fais un max de réformes la dernière année, je jette tout la dernière année, pour effectivement montrer aux Français que je vais au bout, et que je fais quand même des réformes jusqu'au bout. C'est l'exemple de Nicolas Sarkozy, probablement, avec la TVA sociale, qui est voté 6 mois, je crois, ou 8 mois, j'ai plus le chiffre exact en tête, avant le scrutin de 2012. On voit avec François Hollande qu'il peut y avoir une stratégie, une intention probablement similaire, mais on verra bien si c'est le cas ou pas.
Mathias Bernard, bonjour.
Bonjour.
On vient d'entendre Benoît Paru nous dire, voilà, il y a à la fois c'est galvaudé, il y a une répétition des mêmes annonces la dernière année du mandat, et en même temps il y a plusieurs styles. Est-ce que vous confirmez, vous qui êtes un historien de la vie politique française, vous confirmez qu'il y a plusieurs styles de dernière année d'une certaine manière? Il n'y a pas toujours les mêmes choses en réalité, mais des stratégies différentes?
Il y a des stratégies différentes, en effet, selon la position même du président, hein, selon le fait que le président est candidat à sa succession ou non. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a effectivement une volonté de renouvellement de mandat, je dirais on est quand même bien dans une logique qui est préparée en fait bien avant la dernière année de mandat. Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benoît Paru, c'est-à-dire que surtout depuis la mise en place du quinquennat, donc depuis 2002, hein, c'est vrai que c'est l'ensemble des 5 années qui constitue, on va dire, je dirais, une unité temporelle. Ensuite, à l'intérieur de laquelle, en effet, chaque président va décomposer, on va dire, ces 5 années selon un rythme, bon, qui dépend, on va dire, de son équation politique, de l'état de sa majorité parlementaire, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des moments d'accélération, souvent en début de mandat, hein, les 100 jours, les 3 premiers mois, les 6 premiers mois restent un temps très fort, en quelque sorte, hein, dans la temporalité politique. Après, donc, il y a souvent, effectivement, à mi-parcours, en quelque sorte, scandé souvent par des élections, locales, des redéfinitions. Ça s'est passé, par exemple, pour François Hollande en 2014, hein, avec le remplacement de Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls à la tête du gouvernement. Et puis, en effet, il y a cette dernière année de mandat qui est quand même, en règle générale, malgré tout, moins dense en termes de réformes que le début de mandat. On est plutôt quand même dans une logique d'aboutissement, dans une logique aussi d'inflexion. Mais il y a quand même malgré tout, au fur et à mesure que se rapproche l'échéance électorale, quand même une certaine forme de stérilisation malgré tout de l'action, on va dire, réformatrice, de l'action opérationnelle. C'est vrai que la focalisation progressivement sur vraiment la dimension électorale va petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'approche de l'échéance ultime, va, ralentir malgré tout le rythme des réformes au profit d'annonces, hein, d'annonces politiques ou électorales.
Karine Marcet, bonjour.
Bonjour.
Vous qui êtes une spécialiste de l'opinion chez TNS Sofresse, est-ce que vous confirmez que, dans l'opinion, en tout cas, il y a un ressenti de cette fin de quinquennat et qui fait que l'opinion réagit différemment aux annonces, aux réformes ou à l'immobilisme en fonction des stratégies ou des actualités de la politique? Est-ce qu'il y a une réaction différente dans cette année de mandat de l'opinion vis-à-vis du politique ou une attente particulière?
En fait, l'opinion est beaucoup moins, si vous voulez, dans ce temps politique. C'est-à-dire que, notamment avec le passage du septennat au quinquennat, effectivement, et cette accélération du temps, l'opinion souhaite au contraire, si vous voulez, que les choses, finalement, continuent le plus longtemps possible. Et aujourd'hui, donc, on est effectivement à un an de 2017. On est déjà en plein dans la primaire des Républicains. On parle également éventuellement d'une primaire de la gauche. Et puis, on parle naturellement, avec des intentions de vote présidentiel, de ce qui va se passer l'an prochain. Mais en fait, pour l'opinion, ça n'est pas exactement encore son temps. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on a le sentiment que sur la primaire des Républicains, parfois, les gens en sont déjà quasiment saturés à la fois d'enquêtes et d'émissions sur le sujet.
Alors, il y a quelque chose qui est intéressant qui a été évoqué, notamment par Mathias Bernard. C'est l'idée, quand même, que cette dernière année, c'est un peu l'année des bonnes nouvelles, hein. Juste avant l'élection, la droite, récemment, a moqué, en tous les cas, a pointé le fait que Manuel Valls annonçait une réforme, par exemple, des minima sociaux. Mais il y a quelques années, je voudrais vous faire réagir à cette archive, Benoît Apparu. C'était François Hollande qui, lui, moquait, disons, une décision de Nicolas Sarkozy qui avait été prise au printemps 2012. On l'écoute et je vous fais réagir.
Vous avez défendu avec la dernière énergie le bouclier fiscal et là, en fin de législature, vous sacrifiez le bouclier fiscal, mais comme vous êtes soumis à des pressions, vous accordez à ceux qui étaient bénéficiaires du bouclier fiscal des avantages supérieurs à travers la baisse de l'impôt sur la fortune.
Benoît Apparu, cette accusation de François Hollande, c'est l'arroseur arrosé finalement d'une majorité l'autre, c'est un peu le même jeu qui se joue.
Oui, c'est souvent le même jeu qui se joue et chacun va accuser l'autre des turpitudes qu'il a lui-même commises. C'est assez classique dans le milieu politique et c'est le manichéisme français en la matière qui joue à plein. On dit souvent des bêtises et je crains que si on reprenne les calculs que vient de faire François Hollande, il n'est pas tout à fait raison dans le calcul en question, premier élément. Deuxième élément, je voudrais revenir sur ce qui était évoqué à l'instant par les uns et par les autres. Attention au début de mandat et à la fin de mandat. Il y a certes des échéances politiques. Il y a aussi une question de légitimité à agir. Il est évident qu'au lendemain d'une élection, la légitimité à agir est très forte, très puissante. Je sors d'une élection, mon projet politique a été validé, j'ai une légitimité à réformer qui est très forte. Les derniers mois, les dernières années, ou la dernière année plutôt, notamment après des élections perdues, la légitimité à réformer est beaucoup moins forte, beaucoup moins reconnue qu'elle ne l'est au début du mandat. Donc c'est normal qu'il ait temporalité différente. Premier point. Deuxième point, la séquence bonne nouvelle qu'on est en train de vivre, où en gros, on fait des chèques sur l'avenir, est une séquence, là encore, traditionnelle. Une séquence qui était moralement inacceptable de tout temps, mais une séquence qui l'est encore moins, me semble-t-il, quand on n'a pas les sous. Et quand on n'a pas les sous et qu'on prend des décisions qui seront financées sur taux 17, taux 18, là, ça devient totalement choquant. Mais je précise tout de suite qu'effectivement, c'est pas nouveau à l'heure où nous parlons. Enfin, dernier point, si vous le voulez bien. Je pense qu'effectivement, comme ça a été évoqué à plusieurs reprises, quinquennat, septennat, c'est une différence gigantesque. Je vous rappelle que c'est la première fois, avec le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis celui de François Hollande, qu'un président qui a fait la totalité de son mandat redemande une élection. C'était pas le cas de Chirac, c'était pas le cas de Mitterrand. Il faut remonter à Giscard pour avoir un équivalent en la matière. Parce que vous aviez deux cohabitations qui avaient scandé, entre guillemets, les septennats de François Hollande et le premier de Jacques Chirac. Donc attention, on a de ce point de vue-là une révolution constitutionnelle qui est celle du quinquennat, qui change tout en la matière.
Mathias Bernard, vous qui êtes l'historien autour de la table de la vie politique, vous confirmez ce bouleversement introduit par le quinquennat en 2000 ?
Oui, tout à fait, puisqu'effectivement ça a donné vraiment une unité de temps en quelque sorte à la vie politique avec ces 5 années, effectivement, où le temps parlementaire, gouvernemental et le temps présidentiel sont en adéquation. Donc il y a effectivement cette unification des temps qui est importante et qui fait justement que un président nouvellement élu peut vraiment inscrire, on va dire, l'ensemble de son action sur une durée de 5 ans. Ça, c'est un point important. Et puis, bien entendu, ça réduit, même ça annule pas complètement, hein, mais ça réduit quand même le risque de cohabitation. Et du coup, c'est vrai que ça positionne le président élu comme, je dirais, potentiellement rééligible hein, une deuxième fois, en s'appuyant vraiment sur une majorité gouvernementale, ce qui n'était pas le cas, évidemment, de Mitterrand en 88 ou de Chirac en 2002, qui se sont représentés, mais qui sont pourtant dans une position très différente hein, de celle que, par
bien
exemple, Hollande pourrait prendre
s'il était
candidat.
En cohabitation.
Voilà, c'est-à-dire un président de cohabitation, misant beaucoup plus, on va dire, sur sa capacité à être un arbitre, à être au-dessus des partis, au-dessus des polémiques, hein, que justement que comptable d'une gestion gouvernementale comme l'est un président, on va dire, qui est également, je dirais, en charge quelque part, effectivement, des dossiers quotidiens mis en œuvre par son gouvernement.
Benoît Apparu, vraiment, soyez franc, vous avez été ministre du Logement jusqu'en 2012. À partir de quand on s'arrête globalement de travailler quand on est ministre? Ou en tous les cas, comment ça se passe? Il y a forcément une décélération à la fin. Racontez-nous un peu.
Il y a une décélération à la fin, mais qui n'est pas sur la dernière année. La décélération, c'est vraiment quand la campagne électorale bat son plein.
C'est 3-4 mois avant, quoi.
Ouais, 3-4 mois avant. La décélération n'arrive pas aussi vite que ça. Si je prends l'exemple la dernière année de Nicolas Sarkozy, que j'ai vécu, entre guillemets, de l'intérieur. Bon. Je vais vous donner, pour ce qui concerne mon secteur d'activité, deux événements très lourds qui se déroulent la dernière année. Le plan d'économie dit Fillon 2, post-crise. On a un plan d'économie Fillon 1, on a un plan d'économie Fillon 2. Le plan d'économie Fillon 2 intervient en novembre 2011. 13 milliards de moins sur les politiques du logement. C'est pas une petite décision qui est prise 6 mois avant le scrutin. C'est massif, structurant pour les politiques du logement. Quand vous avez 3 mois après une loi qui crée de la surconstructibilité de 30% qui arrive en janvier, les lois de constructibilité sont probablement l'un des enjeux les plus importants pour produire le plus de logements. Donc vous avez là deux exemples de choses importantes qui sont faites, mais qui sont, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, dicté par des conjonctures économiques sur lesquelles aucun président, aucun pouvoir ne peut l'ignorer. Parce que la conjoncture européenne et mondiale, elle se fout complètement de l'élection présidentielle française. Et donc quand vous avez une conjoncture économique violente, dure, massive, comme la crise que nous avons vécue en 2010, et la nécessité d'y répondre, vous ne pouvez pas vous abstenir de réformer. Donc là, il se passe des choses. Là où il y a une décélération totale, c'est les 3 derniers mois, ça c'est clair. Je ne dis pas qu'il ne se passe plus rien et qu'on prépare les cartons, mais quasiment. Et puis, sur les sujets que vous avez
évoqués... Les collaborateurs sont recasés.
J'allais y venir. Moi, j'ai mis un point d'honneur à recaser 100% de mes collaborateurs, y compris, pas uniquement les collaborateurs version cabinet ministériel, mais y compris l'ensemble des fonctions dites support, secrétariat, etc., etc., à recaser 100%. On s'y prend 7-8 mois à l'avance. C'est clair.
Et à ce titre-là, vous diriez qu'il y a aussi une différence entre les ministres, c'est-à-dire le fait qu'on soit ministre de logement ou ministre d'affaires étrangères. Est-ce que si on est dans le régalien, si on est dans des dossiers importants comme le vôtre, j'imagine avec une différence aussi avec les secrétaires d'État qui sont à des petites fonctions, est-ce que vous sentez qu'il y a une ambiance qui n'est pas la même? Est-ce que pour soi aussi on pense à qu'est-ce qui va se passer ensuite, non?
Il y a probablement effectivement des secteurs d'activité qui sont très différents. L'actualité et le taux de crise que vous avez aux affaires étrangères ou à l'intérieur est 1000 fois plus important et vous ne pouvez jamais vous débrancher. Prenons un exemple là encore historique de mandat de Nicolas Sarkozy, c'est l'affaire Mera, qui évidemment sur le plan
bien
diplomatique
sûr,
et plus
semaines
encore
avant le premier tour,
sur le plan intérieur, fait qu'effectivement ce type de ministère-là, à crise permanente, ne peuvent jamais s'arrêter. Et puis enfin, n'oublions pas un point qui s'appelle la continuité de l'État via l'ensemble des fonctionnaires d'un ministère, fait quand même que la machine globalement tourne. Ce qui tourne beaucoup moins, c'est la machine à prendre des décisions nouvelles qui engagent pour la suite. Par contre, dans la mise en œuvre des politiques publiques au quotidien, évidemment que tu continues comme ça.
Donc vous dites aux auditeurs, par exemple, que la France ne s'arrête pas.
Mais évidemment que non.
Enfin, parce qu'on est un an avant l'élection
présidentielle. Ça fait partie des fantasmes des uns et des autres, des journalistes comme des Français, comme des politiques, qui consistent à dire, enfin l'opposition en l'occurrence, qu'il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de décisions nouvelles ou moins de décisions nouvelles structurantes. Et ce n'est pas un mal, parce que les décisions nouvelles structurantes, si on gouvernait bien en France, on les prendrait la première année, et on passerait ensuite 4 ans à les mettre en œuvre. Sauf que comme en France, on est jugé sur les annonces et pas sur la mise en œuvre et les résultats, effectivement,
on continue
à vouloir annoncer, conseil des ministres après conseil des ministres, des nouvelles lois pour montrer qu'on continue à faire des choses.
Karine Marcet, nous sommes aujourd'hui le 7 mai, donc pile un an avant pour la prochaine élection présidentielle. Vous êtes spécialiste des études d'opinion, directrice associée de la Sofres. Faites-nous un bref rappel. Un an avant l'élection présidentielle, est-ce que tout est joué pour le président sortant quand celui-ci est susceptible d'être candidat à sa réélection?
Alors, eh bien non, bien sûr, rien n'est joué. Alors, je dirais que finalement, c'est en 2012 où l'opinion était la plus stable. C'est-à-dire que après finalement l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, en fait, qui très rapidement dans les enquêtes d'opinion va atteindre des résultats très importants. À partir de ce moment-là,
donc
finalement,
mai-juin 2011.
Mai-juin 2011, si vous voulez. À partir de ce moment-là, finalement, l'opinion est assez stable globalement. C'est-à-dire que globalement, François Hollande est en tête, Nicolas Sarkozy est second, Marine Le Pen est déjà très haute, et dans le fond, il ne va pas se passer grand-chose. Ce qui va se passer, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, va monter très fortement. Dans tous les deuxièmes tours, si vous voulez, qui vont avoir lieu à partir donc de cette arrestation de ministre Scano, et à partir donc de cette nouvelle phase d'enquête électorale, on a effectivement un François Hollande qui est très largement majoritaire au second tour face à Nicolas Sarkozy. À l'extrême limite, si vous voulez, la vraie évolution, c'est que, en définitive, François Hollande va être élu comme François Mitterrand avec 51,6 au second tour, là où un an avant, il est élu avec des scores, je dirais, quelque part un petit peu absurdes, puisqu'on annonce 58% au second tour.
Alors là, c'est l'exemple d'une élection présidentielle où, en gros, un an avant, on savait ce qui se déroulerait. Est-ce qu'à l'inverse, vous pouvez nous citer le cas d'une dernière année où tout a été chamboulé et où ça ne s'est pas passé comme
alors,
prévu?
Alors, le cas le plus emblématique, dans le fond, c'est Giscard. Giscard, en 1980, est donné très très largement gagnant. Il a battu Mitterrand en 1974, Mitterrand apparaît comme quelqu'un de la 4e République, et donc un an avant, si vous voulez, tout va très bien pour Giscard d'Estaing. Il est avec des niveaux de confiance qui sont extrêmement élevés, et il est très largement gagnant dans toutes les enquêtes. Et puis, les choses vont se rapprocher petit à petit, et ça n'est qu'en février que Giscard commence à être...
En février 81, hein, donc très tard en fait.
En février 81, très très tard. En février 81, il est toujours donné gagnant, mais les courbes se rapprochent et effectivement, on commence à entrevoir l'idée que Mitterrand va être élu. Et ça n'est que tout à fait à la fin que effectivement, il va y avoir quelques sondages qui vont paraître et qui vont donner Mitterrand élu. Mais jusqu'au bout, les Français vont penser effectivement que c'est Giscard qui va être élu.
Alors je vous propose justement d'écouter la voix de Valérie Giscard d'Estaing. C'était en mars 1981 et il évoquait à l'époque sa candidature probable, quasiment certaine. On va écouter l'ancien président de la République.
Est-ce anormal qu'un président de la République se représente? Si vous regardez l'histoire mondiale, vous verrez que de nombreux présidents se sont représentés dans le monde ou en France. Donc ce n'est pas en soi une situation anormale. J'ai dit que ce serait pour un septennat nouveau. Pourquoi? Je ne demande pas, si je puis dire, une prolongation de mon septennat. J'ai dit que je rendrai le pouvoir qui m'a été confié, que je le rendrai intact, mais que par contre, il y a des choses dont je souhaite pouvoir les faire, dans l'exercice naturellement de mes attributions, pour une période nouvelle. Alors pourquoi le demander? C'est d'abord parce qu'il y a des choses qui ont été commencées et qui, par leur nature même, suppose un temps plus long que les années qui sont écoulées pour aller jusqu'à leur terme. Et d'autre part, parce que j'ai toujours été guidé dans ma vie publique par des convictions. Je suis quelqu'un qui agit en fonction de certains principes. Et je souhaite que la France continue d'être guidée par ces principes dans les années à venir. Je vous les cite simplement en quelques mots. D'abord, le principe de liberté. Nous sommes dans une société de liberté. Quand je suis arrivé, quand j'ai été élu, on mettait en doute la liberté. J'observe que plus personne ne la met en doute. D'autre part, une société qui rejette les solutions des extrêmes. Parce que la France est un pays de raison et de mesure, et dont je ne souhaite pas qu'elle soit à un moment ou à un autre dominée ou conduite par des solutions extrêmes. Et enfin, parce que ma préoccupation dominante, c'est la préparation de l'avenir, et qu'il y a encore beaucoup à faire pour préparer l'avenir de la France.
Mathias Bernard, quand on entend Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser que le moment de la déclaration de candidature, c'est un moment très important de cette dernière année. Souvent, on essaye de la reculer aussi loin que possible pour la rapprocher de l'élection. Est-ce que vous pouvez nous expliquer s'il y a des exceptions, et surtout pourquoi?
Mais je crois qu'effectivement, il y a une sorte de, d'ailleurs, dans cette situation de jurisprudence de Gaulle, puisque finalement, le premier président sortant à se représenter devant le suffrage universel, hein, c'est De Gaulle en 1965. Et De Gaulle fait un choix stratégique qui est vraiment d'attendre le tout dernier moment, y compris réglementaire, en quelque sorte, c'est-à-dire un mois avant le premier tour du scrutin, pour annoncer sa candidature, c'est-à-dire il le fait effectivement le 4 novembre 1965, hein, pile un mois avant le scrutin. Giscard annonce sa candidature 6 semaines avant l'élection, un début mars, pour une élection qui a lieu fin avril. Mitterrand va faire, en 88, va faire exactement comme De Gaulle. Hein. Il annonce sa candidature le 22 mars 88 pour une élection qui a lieu
un mois après, très tard,
vraiment. Alors, en revanche, les choses vont commencer à changer en 2002, hein, avec Chirac, qui est lui un président cohabitant, hein, qui va d'ailleurs annoncer sa candidature à la présidence, avant même celle de Lionel Jospin, son premier ministre, hein, qui sera son challenger, en quelque sorte. Hein. Il l'annonce, lui, au début du mois de février, hein, le 11 février précisément, donc plus de 2 mois. Hein, avant.
Ah oui, on se souvient avec la maire d'Avignon, Madame Roig.
Tout à fait. Et Nicolas Sarkozy d'ailleurs annoncera à peu près, sa candidature à peu près au même moment, le 15 février. Hein. Donc là pour le coup sur un plateau de télévision, mais 2 mois à peu près avant. Alors pourquoi justement il y a ce changement?
Rapidement.
Pourquoi les présidents sortants annoncent plus tôt leur candidature qu'il y a 40 ans? Parce que ils ont saisi que les Français étaient beaucoup moins sensibles qu'il y a 40 ans, justement à l'argument d'autorité, hein, à la légitimité en tant que telle du président. Hein. On sait qu'aujourd'hui, mais c'est pas nouveau, c'est pas propre à la présidence Hollande. Hein. Les présidents de la République ont une impopularité, hein, beaucoup plus forte qu'il y a 30 ou 40 ans. Et du coup, ils ont besoin de faire campagne.
Sur ce point, Benoît Apparu, vous qui avez été ministre du logement de Nicolas Sarkozy à la fin, notamment la dernière année, vous vous souvenez qu'il y avait eu un débat au sein du gouvernement pour savoir à quel moment il faut annoncer sa candidature. Est-ce que finalement, rétrospectivement, c'est une erreur de l'avoir fait si tard? Qu'est-ce que vous pouvez nous rappeler de cette période?
Alors, il y a effectivement un débat au sein de la classe politique française, notamment au sein de la majorité de l'époque et au sein du gouvernement, pour savoir s'il faut y aller plus tôt, en gros courant janvier, pour avoir 3-4 mois de campagne, ou plus tard, ce qui sera finalement le choix de Nicolas Sarkozy, qui reviendra d'ailleurs un peu en arrière, puisqu'il va accélérer un peu le rythme, alors qu'il a prévu à l'origine de se présenter encore plus tard. Pourquoi ces débats? Parce qu'on est bien confronté entre des injonctions contradictoires. Un, il faut faire campagne. Quand on est en retard et qu'on est pas en tête dans les sondages, si vous faites pas de campagne électorale, vous avez aucune chance de gagner. Donc ça pousse à se déclarer le plus tôt possible. De l'autre côté, un président 3 ou 4 mois en campagne électorale, ça peut faire tâche. En gros, qu'est-ce qu'il fout? Il est pas à l'Élysée, il est en campagne électorale, c'est pas bien, il est plus président, à quoi il sert? Donc on a ces injonctions contradictoires pour trouver la bonne date. La petite histoire retiendra quoi? Que Nicolas Sarkozy, et je pense qu'il a tort, est encore convaincu qu'avec 15 jours ou 3 semaines de campagne en plus, il aurait gagné. Je n'y crois pas, mais en tout cas, c'est sa conviction.
Benoît Apparu, Karine Marcet et Mathias Bernard, on se retrouve dans un instant, mais tout de suite, il est grand temps de retrouver la séquence internationale de l'Atelier du Pouvoir.
France Culture, l'Atelier du Pouvoir. Vincent Martini, Thomas Vider.
Pour prolonger notre réflexion sur la dernière année de mandat présidentiel, nous avons décidé cette semaine de nous intéresser à un pays dont le président vit également sa dernière année en poste, les États-Unis. Barack Obama vit en effet ses derniers mois de président des États-Unis puisque l'Election Day, l'élection de son successeur, se tiendra le 8 novembre prochain. Alors comment le président vit-il ses derniers moments alors qu'un débat agite le milieu politique américain sur la nomination par Obama d'un juge à la Cour suprême en remplacement du juge Scalia, décédé en février dernier et dont nous avions parlé lors d'un précédent atelier du pouvoir consacré, vous vous en rappelez peut-être, au Conseil constitutionnel. Alors pour comprendre le rôle de cette dernière année de mandat et de ce que celle-ci nous dit du pouvoir du président des États-Unis, je reçois aujourd'hui Vincent Michelot. Bonjour Vincent Michelot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être notre invité. Je rappelle que vous êtes professeur d'études américaines à Sciences Po Lyon, spécialiste de la vie politique dans ce pays et essentiellement des présidents. Vous avez d'ailleurs publié en 2013 une biographie du président Kennedy intitulée très sobrement Kennedy et parue chez Folio. Alors ma première question, elle porte sur les différentes formes que peuvent prendre la dernière année de mandat aux États-Unis. Il y a quand même différents cas de figure, non ?
Il n'y a pas de typologie de la fin de mandat. Il y a simplement une typologie du début de mandat qui a été fixée, et Benoît Apparu le rappelait il y a quelques minutes, par cette période des 100 jours qui s'est imposée à partir du New Deal. Mais sur la fin, sur la dernière année du mandat, d'abord on a la dernière année d'un premier mandat, qui n'est pas du tout la même que la dernière année d'un deuxième mandat, un président en campagne. Et là, il faut le rappeler par rapport à la conversation qu'on vient d'entendre, aux États-Unis, même un président sortant est soumis aux élections primaires. Et c'est un bon indicateur d'ailleurs de sa popularité, puisque un président Carter, en 80, est en très grande difficulté et émerge une candidature qui est celle d'Edward Kennedy, de la même manière que le président Ford, en 76, est lui-même la victime des assauts de Reagan qui deviendra président en 1980.
Donc deux situations, une situation où un président à la fin d'un premier mandat est à nouveau en campagne, éventuellement contre des successeurs de son propre camp, et puis des situations où on est en fin de mandat. Et dans ces situations-là, celle d'une dernière année de mandat, quels sont les problèmes auxquels s'exposent les présidents dans leur action ?
Il y a deux choses qu'il faut rappeler qui sont très différentes de la France. D'abord, le président des États-Unis a un pouvoir de nomination qui est beaucoup plus important que celui du président français. Et c'est dans ces nominations qui sont de plus en plus difficiles, d'autant plus que certaines des nominations et les nominations des magistrats fédéraux, par exemple aux États-Unis, se font à vie. Et c'est ce qui explique l'actuel débat autour de la nomination du juge Garland pour remplacer le juge Scalia. C'est que le record de longévité à la Cour suprême des États-Unis, c'est 36 ans. C'est donc imaginer que aujourd'hui, le président Obama pourrait nommer un juge qui siégerait à la Cour suprême, qui a un pouvoir beaucoup plus important que celui du Conseil constitutionnel.
Jusqu'en 2050.
Jusqu'en 2050. Et là, évidemment, on se dit qu'un président qui, dans la dernière année de son mandat, ne devrait pas disposer de ce pouvoir.
Et en même temps, il y a une distinction entre l'altération de son pouvoir en politique étrangère et en politique intérieure. Est-ce que c'est du même acabit ?
Bien sûr que c'est totalement différent. Le président des États-Unis reste le chef des armées jusqu'au 20 janvier à midi de l'année où il quitte le pouvoir. Le président des États-Unis reste celui qui impulse la politique étrangère des États-Unis et il peut le faire jusqu'à l'extrême limite de son mandat. Et là encore, de la même manière que l'économie, comme le rappelait Benoît Apparu, se fout du calendrier institutionnel américain, les crises internationales ne se font pas en fonction du calendrier présidentiel des États-Unis.
Donc si on comprend bien ce qu'on appelle aux États-Unis l'année canard boiteux, cette dernière année où il est difficile de faire des nominations, elle touche surtout les nominations. Mais si on réfléchit aux grands précédents dans l'histoire américaine, où des dernières années de mandat ont été particulières, spectaculaires, peut-être différentes, à quoi on pense exactement ?
Il y a une seule caractéristique qui est simplement que on n'a jamais à lancer un grand projet législatif pendant une dernière année de mandat. Et donc, tout se fait sur l'extérieur, et il y a des années qui sont particulièrement importantes. On pense à la dernière année du mandat d'Eisenhower en 1960, qui est dominée par un des moments les plus tendus de la guerre froide, cet avion espion qui est abattu au-dessus de l'URSS de l'époque, et une année terrible dans la guerre froide. Et puis, on pense, de l'autre côté, à des dernières années de mandat, celle de Reagan, par exemple, qui est pétré dans la crise de l'Irak-contraint, celle de Clinton qui ne fait pas grand-chose sauf relancer le processus de paix en Israël en 2000. Donc, finalement, une année qui ne peut être consacrée qu'à une initiative en matière de politique étrangère.
Alors, d'un dernier mot, si on réfléchit à cette dernière année de mandat aux États-Unis, cette année canard boiteux dont vous nous parliez, qu'est-ce que cette année nous dit du pouvoir du président américain et du système institutionnel dans ce pays ?
Elle confirme ce qu'on dit toujours, c'est que la séparation des pouvoirs est une réalité aux États-Unis et qu'il y a bien un domaine réservé qui est encore plus réservé en tant que chef des armées et en tant que chef de la diplomatie de la part du président des États-Unis, mais que le président des États-Unis est peut-être encore plus limité que ne l'est le président de la République en France en matière de politique intérieure, surtout, évidemment, lorsqu'il est en phase de cohabitation à l'américaine, c'est-à-dire avec un congrès opposé.
Merci Vincent Michelot. Benoît Apparu, vous vouliez réagir à ce que vous êtes entendu.
Un mot de réaction. Le président américain est probablement l'homme au monde qui a le plus de pouvoir. Mais le président français a beaucoup plus de pouvoir que le président américain. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, vous n'avez pas l'équivalent du fait majoritaire, c'est-à-dire d'une majorité qui est quasiment le doigt sur la couture du pantalon pour soutenir le président français, ce qui est beaucoup moins le cas aux États-Unis, et puis surtout parce que vous avez aux États-Unis une séparation des pouvoirs forte et réelle avec un Parlement qui a des vrais pouvoirs autonomes dessus du président, ce qui n'est pas le cas chez nous. Raison pour laquelle, effectivement, dans la dernière année, vous avez des modalités de fonctionnement qui n'ont strictement rien à voir. Un président français qui veut continuer à agir massivement, on peut le faire. Un président américain est beaucoup plus empêtré que n'est le président français, y compris, me semble-t-il, sur les affaires étrangères. Un exemple en la matière. Barack Obama a clairement annoncé et j'ai cru comprendre que sur le plan constitutionnel ou juridique, il y avait des débats dessus, que la ratification de la COP21, il le ferait par décret présidentiel, parce qu'il sent bien que s'il passe par le Parlement, il n'aura probablement pas l'accord. Donc je ne sais pas si juridiquement ça tient complètement la route, et j'imagine qu'il ne peut pas faire autrement, mais enfin, j'ai cru comprendre qu'il y avait 2-3 bouts de débat sur le sujet, par exemple.
Karine Marseille, retour sur ces phénomènes d'opinion au cours de la dernière année. Bah, il reste un an aujourd'hui à François Hollande pour remonter une pente particulièrement raide et longue. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'un président qui était donné vainqueur un an avant l'élection, comme Giscard, pouvait être battu. Mais un président qui est donné aussi bas que Hollande, a-t-il été déjà réélu ?
En fait, vous avez l'exemple de Jacques Chirac en 2002.
Est-ce que c'est vraiment comparable ? Il était en cohabitation.
C'est pas comparable, mais c'est le seul exemple finalement où Jacques Chirac est réélu. Alors effectivement, dans un duel avec Jean-Marie Le Pen, avec l'élimination au premier tour de Lionel Jospin. Mais qu'est-ce qui se serait passé si effectivement Lionel Jospin avait été au second tour ? En fait, le deuxième tour aurait été de toutes les façons très incertain. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que Jacques Chirac était dans une position extrêmement inconfortable et qu'effectivement, au soir du premier tour 2002, bah, pour lui, c'est...
C'était providentiel en quelque sorte
de face à Marine Le Pen.
Dans une dernière année, est-ce qu'il peut y avoir des mouvements d'opinion inattendus ? Chose qu'on n'a pas prévu du tout. Qui émerge, ça arrive, ça ?
Alors, il peut y avoir des mouvements d'opinion. Vous voyez, c'est ce qu'on rappelait sur Giscard d'Estaing. Finalement, les mouvements d'opinion les plus inattendus, c'est peut-être, par exemple, dans l'élection de 2007, le phénomène le plus frappant, c'est le phénomène Bayrou, qui en 2006, vous voyez, est à 6% et qui va, juste avant le premier tour de l'élection présidentielle, on l'a complètement oublié, mais en fait, il va quasiment tangenter en fait, le niveau de Ségolène Royal. Il est à 22, elle est à 24. Et puis, en fait, si vous voulez, ben, ça ne prend pas. C'est-à-dire que ce mouvement d'ascension de François Bayrou, qui est extrêmement fort, en fait, ne prend pas et il redescend avec, finalement, Ségolène Royal, qui va donc être au deuxième tour d'élection présidentielle.
Oui, c'est peut-être ça, finalement, sur des tiers candidats qui se passent des phénomènes parfois intéressants. Vous citiez Bayrou en 2007, on pourrait se souvenir de Chevènement en 2002, ou par exemple de Raymond Barre aussi en 1988, comme ça, des troisième hommes qui, à un moment donné, font une percée dans l'opinion dans les dernières semaines.
Alors, on pourrait se souvenir surtout, en fait, de la fameuse inversion des courbes en 95, hein, où donc, effectivement...
Chirac-Balladur.
Donc, on est dans une situation, effectivement, où jusqu'au mois de janvier 95, Jacques Chirac paraît complètement distancé par Édouard Balladur. Hein. On est dans des niveaux quasiment de 1 pour 2. Balladur est au-delà de 30 et Chirac est plutôt autour de 17-18. Et donc, en fait, tout va se passer au courant février. En fait, on a une inversion, là, de ces courbes. Et donc Jacques Chirac va devancer Édouard Balladur et ensuite la courbe ne va pas se retourner avec un score qui sera malgré tout assez étroit finalement au premier tour de 95.
Benoît, à part une dernière question avant de conclure ce débat, lorsqu'on est confronté à un président dans une situation de faiblesse aussi grande avec un parti majoritaire qui est quasiment effondré, quand on est un représentant de l'opposition qui donc souhaite l'alternance, est-ce qu'il n'y a pas non plus un danger dans cette dernière année d'avoir un adversaire qui serait trop faible et qu'on aurait tendance soit à sous-estimer, soit à être incapable de se mettre à la hauteur d'une élection dans ces situations-là, sachant que vous soutenez Alain Juppé et donc, à ce titre-là, comment est-ce que vous avez le sentiment que vous abordez cette dernière année de mandat et donc année éventuellement avant alternance ?
Alors, la question est, je crois, très difficile à aborder comme vous l'avez abordée. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans ceux qui sont censés incarner l'alternance demain, le rendez-vous qu'ils ont en tête, c'est pas le rendez-vous de la présidentielle, c'est le rendez-vous de la primaire. Donc aujourd'hui, la question, quelque part, qu'on se pose, c'est pas la question François Hollande. Moi, je suis porte-parole d'Alain Juppé. La question aujourd'hui que je me pose, c'est la question François Fillon, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire. C'est cette question-là. Et donc nous, on est engagés dans cette logique-là. Et la question de l'élection présidentielle se posera, pour ce qui nous concerne, après le mois de novembre. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ce sujet-là. Deuxième point, je ne me réjouis pas, et je ne me résoudrai jamais, d'avoir un président faible sur le plan institutionnel, sur le plan de la capacité à réformer la France, à faire bouger la France. Sur un plan purement électoral, ça ne me dérange pas.
Un mot de conclusion, Mathias Bernard, sur cette dernière année ?
Eh bien, écoutez, je crois qu'effectivement, ce que l'on peut dire, c'est qu'à l'exception de l'élection de 2012, où on a eu une stabilité hein, des tendances électorales sur, pendant les 12 mois qui ont précédé l'élection, c'est vrai que toutes les autres élections hein, de la Ve République ont été quand même marquées par des surprises, par des évolutions hein, qui ont tenu soit la dynamique proprement électorale, c'est-à-dire effectivement l'émergence de nouvelles candidatures, des dynamiques soit à la hausse, soit à la baisse de tel ou tel candidat, soit qui ont tenu à des contextes particuliers, par exemple pendant l'élection de 2002, eh ben, s'est déroulé le 11 septembre 2001, hein, qui a quand même un petit peu modifié, on va dire, les préoccupations électorales. Pour l'élection de Giscard, le second choc pétrolier, hein, fin 79, a aussi joué un rôle important, de même que, par exemple, l'affaire des diamants, hein, qui a été révélée aussi dans ce contexte préélectoral. Donc, du coup, il y a quand même une part d'incertitude qui est importante, qui quand même peut permettre des évolutions assez fortes en termes de projection électorale et qui fait qu'un an avant, ben, rien n'est vraiment joué.
Eh ben, heureusement, parce que sinon, on s'ennuierait. Merci beaucoup. Merci Mathias Bernard. Merci Benoît Paru, Karine Marcet et Vincent Michelot d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ces fins de mandat présidentiel. C'est la fin de cet atelier du pouvoir. Une émission de Vincent Martini et Thomas Vider, préparée par Cyril Baer, réalisée par Doria Zénine. À la technique, aujourd'hui, Philippe Mercher. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, @atelierpouvoir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 12h50. Tout de suite, vous êtes avec Sylvain Bourmeau pour la suite dans les idées. Très bon week-end à tous sur France Culture. We'll be right back.